Voilà donc 10 ans qu'Ulysse tente désespérément de rentrer chez lui, à Ithaque. En vain. Après bien des aventures, le voilà échoué sur cette île aux confins du monde. Face au destin qui s'acharne contre lui, Ulysse a définitivement baissé les bras. Prostré, il ressasse ses souvenirs. Sans cesse, il revoit ce jour où il quitta Troie en flammes, croyant la fin de son périple toute proche. Troie vient de subir l'assaut des Grecs. Elle est en flammes, entièrement détruite. C'est la ruse plus que la force qui a permis aux Grecs de prendre la cité de Priam, grâce au cheval de bois qu'a conçu l'ingénieux Ulysse. On aperçoit encore son imposante silhouette. Dans ses flancs, on avait caché les plus vaillants guerriers. Et à la nuit tombée, se faufilant hors du cheval de bois, ils ont ouvert grand les portes de la ville à l'armée grecque. En quelques heures, la fière cité fut prise et son roi, Priam, traîné hors du palais et massacré. Ulysse, depuis le rivage, revoit les scènes de carnage de ces derniers jours. Agamemnon, le roi des rois, avait juré que pas une pierre ne resterait debout à Troie. Il a tenu parole. Il a même fait pire. Les rues se sont transformées en une coulée de sang. Tous les habitants, jeunes ou vieux, soldats ou civils, ont été passés au fil de l'épée lors de ce massacre qui a duré des jours et des nuits. On a violé les femmes, égorgé les vieillards, précipité les nouveau-nés innocents du haut des murailles. Les seuls survivants du carnage, la reine Hécube, sa fille Cassandre et sa belle-fille Andromaque, veuve d'Hector, le fils aîné du roi, sont devenus les esclaves des vainqueurs. Mais les milliers de vies volées aux Troyens ne feront pas revenir d'entre les morts les valeureux guerriers grecs tombés au combat, les amis d'Ulysse. Achille, le divin héros, Patrocle, Ajax, Antilope et tant d'autres. Toutes ces vies perdues. Une guerre pour rien. Ou plutôt, pour combler l'orgueil d'un seul homme, Agamemnon. Si les dieux ont laissé faire cela, songe Ulysse, alors ils ne sont plus dignes d'être célébrés par les hommes. Si les dieux n'ont pu ou n'ont voulu empêcher cela, alors, ils ne méritent plus qu'on les révère et qu'on place en eux l'espoir et la foi. En son cœur, Ulysse sent que le temps de craindre les dieux, de croire en leur justice, ce temps qui a rythmé pendant des millénaires la vie des hommes, n'est plus. Oui. Si les dieux étaient justes, ainsi qu'ils le prétendent, pourquoi le monde est-il devenu ce lieu d'injustice? La vie, désormais, a le goût de l'amertume. Ulysse ne souhaite plus qu'une seule chose, quitter cette terre ensanglantée et rentrer chez lui. Au moment de partir, Ulysse et les Grecs qui ont survécu à cette terrible guerre partagent le même dépit. Tout ça pour ça. Troie ne regorgeait ni d'or ni de bijoux, comme l'avait promis Agamemnon, le roi des rois. Son seul trésor, c'était son peuple, et il a été anéanti pour venger les héros grecs tombés au combat. Les soldats qui ont pris place sur les navires d'Ulysse repartent vers Ithaque, les mains vides, le cœur lourd, l'âme enténébrée par leur crime. Ulysse contemple une dernière fois ce spectacle de désolation, puis regarde ses deux plus proches capitaines, Eurylope et Polytesse, les amis de toujours. Une fatigue terrible pèse sur leurs épaules. Sur l'Olympe, Zeus a tout vu. Il a surtout tout compris. Ce qui se joue en ce moment, dans le cœur d'Ulysse, est la plus redoutable des menaces pour les dieux immortels. Peut-être pire que toutes les querelles et toutes les batailles auxquelles se livrent depuis toujours les divinités de l'Olympe et qui ont conduit à cette guerre de Troie qui a vu tant de vies sacrifiées. Car, en Ulysse, ont germé les graines d'un mal qui risque de se propager à toute vitesse. Un mal que tous les dieux redoutent. Et que les hommes nomment l'athéisme. Athéna est auprès de son père. Elle est la déesse de la guerre et a protégé les Grecs pendant tout le conflit. Elle a tout particulièrement veillé sur Ulysse. Elle admire son inventivité, ses mille ruses. Elle vient demander à son père de faire en sorte que le retour d'Ulysse vers sa patrie, Ithaque, soit doux et paisible. Il l'a bien mérité. Mais Zeus s'emporte. Sa fille a-t-elle oublié que si elle est la déesse de la guerre, elle est aussi déesse de la raison, de la sagesse? Que peut-on attendre du comportement nouveau d'Ulysse? Cela passera, répond Athéna. Non, ça ne passera pas. Zeus le sait. Si un homme, un simple mortel, commence à douter de la puissance des dieux. S'il abandonne toute croyance en eux, c'est bientôt leur nécessité même qui sera remise en cause. Or, poursuit Zeus, les dieux ne tirent leur puissance et leur gloire que de la croyance que les hommes placent en eux. Que les hommes se détournent, cessent de croire, de les craindre, de leur sacrifier les hécatombes, de leur rendre les honneurs, alors les dieux n'auront plus sur terre aucun pouvoir. Athéna le sait. Elle en convient. Il faut donc châtier Ulysse, tonne Zeus. L'empêcher de répandre cette idée de par le monde. Et pour cela, le faire périr sur la route du retour. Soudain, le vent se lève. Une formidable houle conduit la flotte d'Ulysse vers une île et la force à accoster. Ulysse connaît cette île. C'est Ismaros, le pays des Cicones, qui furent les alliés des Troyens, les ennemis des Grecs. Puisqu'il faut y faire halte, Ulysse décide de s'y procurer des vivres. Mais ses hommes outrepassent ses ordres et se livrent au pillage. Ils massacrent les cicognes, puis s'enivrent dans les tavernes. Eurylochë tente d'intervenir. Les dieux risquent d'être contrariés. Ulysse n'a pas le courage d'arrêter ses hommes. Les dieux, lâche-t-il dans un soupir. Un vieillard se jette aux pieds d'Ulysse. C'est un prêtre d'Apollon. Il propose au roi d'Ithaque de l'or et des outres de vin rare, afin que sa famille et lui-même soient épargnés. Ulysse accepte d'un air absent. À la vue de tous ces cadavres qui recouvrent les rues, il est pris de vertige. Encore des morts. Mais nous ne sommes plus devant les murailles de Troie. La guerre est finie. Ces nouveaux combats n'ont plus aucun sens. Ulysse ordonne brusquement le retour au vaisseau. Mais alors que ses soldats, encore éméchés, alourdis par leur prise de guerre, remontent à bord des navires, une pluie de flèches s'abat sur les Grecs. Ce sont les cicognes de l'intérieur des terres, alertés par les rescapés du massacre, qui fondent sur Ulysse et son équipage. Les Grecs tentent de faire face. Mais plusieurs d'entre eux sont tués. Il faut fuir. Eurylochë fait alors observer à Ulysse qu'ils ont abandonné leur compagnon mort sans sépulture. L'âme de ces malheureux continuera donc d'errer sur terre, sans but. Jamais elle ne connaîtra le repos éternel. Pour un Grec, c'est le pire des châtiments. Ulysse le regrette, mais ils n'ont pas eu le choix. Zeus et Athéna ont été les témoins de ce qui vient de se dérouler sur l'île des Cicones. Athéna voit-elle de quelle impiété Ulysse, son protégé, s'est rendu coupable en abandonnant les corps de ses soldats morts? Athéna comprend la menace que représente Ulysse. Oui, il bafoue les dieux. Oui, il semble bien qu'il ait cessé de croire en eux. Mais justement, il ne faut pas le tuer, mais plutôt le ramener à la raison. Si Ulysse a réellement perdu la foi, alors le foudroyé n'empêchera pas ses idées de se propager parmi les hommes. Le récit de l'anéantissement de Troie viendra aux oreilles d'autres mortels qui, devant tant de morts qu'ils jugeront injustes et absurdes, se mettront à penser comme Ulysse. Non, ce qu'il faut, dit Athéna, c'est que Zeus la laisse protéger Ulysse, comme elle l'a toujours fait par le passé, en l'aidant dans ses épreuves, puis en se faisant reconnaître de lui, elle balayera d'un revers de main ses idées nouvelles. S'il rentre sain et sauf, guidé par la déesse, alors Ulysse sera bien obligé d'admettre que malgré les morts de la guerre de Troie, les dieux sont tout-puissants. Il reviendra dans le droit chemin et oubliera ses idées séditieuses. Zeus réfléchit longuement.